terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 185e émission sur les ondes de Divergence FM, Radio Larzac et Radio Escapade. La revue de presse de l'April pour la semaine 45 ouvrira cette émission. Puis elle sera entièrement consacrée au tour du logiciel libre, un tour de France qui a fait étape à Montpellier. C'était ce jeudi 14 novembre 2013, un tour de France réalisé à l'initiative de la société Linagora, une des plus importantes sociétés en logiciel libre en France. Un tour de France qui vise à enfoncer le clou de la directive du Premier ministre conseillant l'utilisation des logiciels libres dans les administrations et les collectivités. On va parler avec Pascal Fedel de la coopérative de la Dulacte des freins au développement d'une plateforme régionale ici en Haute-de-Croussillon, d'exemples d'autres régions et des projets. Avec Julien Faury de l'Inagora, du contexte favorable en ce moment en France pour le logiciel libre, du terme propriété intellectuel encore usité dans le business de la politique de reversement du code à la communauté chez l'Inagora, et avec Jean-François Mangin, directeur de la DSI du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, de la migration de la suite bureautique vers la suite bureautique LibreOffice pour le Conseil Régional, un choix poussé par la DSI, une question de souveraineté, les problématiques de la migration du système d'exploitation, les difficultés de formation dans le cadre de cette migration, les styles, un des atouts de LibreOffice, et puis le bon moment pour migrer les systèmes d'exploitation, avec l'importance de mutualiser les expériences et productions des différentes collectivités locales ici. Pour la partie musicale de cette divergence numérique, ce sera l'artiste autodidacte argentin qui a séjourné en France et en Italie, Santiago Louvet, qui nous accompagne dans cette émission avec trois titres, Electro Oblivion, Paris et Lunar por Calo, extrait de l'album Maktoub. Pour l'heure, c'est la revue de presse de l'April que l'on retrouve sans plus attendre.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 45, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Alors Manu, parle-nous du sommaire.
On a un joli petit sommaire sur lequel on va s'éterniser. Non, je rigole. On va vous parler de Canonical, la TVA et les e-books, les internautes qui doivent se révolter bientôt, la bureautique libre, réparer Internet. Je savais pas, il est cassé, mais bien sûr. Et l'open source qui est en guerre, le Brésil, et pour finir, on va vous parler de liberté logicielle. C'est un peu le sujet de toute manière.
Développé.com, Canonical, acteur de l'open source, use des droits de marque contre un site. Un article de Ino Romari.
Canonical, c'est qui ça ?
Canonical, c'est la société qui est derrière Ubuntu, donc qui finance tout ça et qui gère un peu la distribution. Et donc là, elle a utilisé son droit des marques pour faire taire un site dissident qui critiquait les choix qui avaient été faits par Canonical.
Alors c'est quoi la différence entre droit des marques et licence libre, tout ça ?
Vous pouvez utiliser un mot, n'importe quel genre de mot, ou un dessin, un logo, pour dire « voilà, c'est le mien ».
Et voilà, c'est ce qui assure l'identité. Donc, c'est le cas de l'essentiel des logiciels libres, pas tous, mais dans l'idée, ils ont du code libre, on peut le reprendre, le modifier, etc. Mais bien souvent, le nom, le logo, etc., par contre, lui, il est protégé parce que c'est l'identité du projet.
Et justement, ça peut être utilisé comme une arme.
Pour ceux qui ont suivi un peu l'historique, Ubuntu propose une recherche unifiée. Donc, en fait, quand on fait une recherche sur Ubuntu, ça publie des données sur Amazon, et donc, c'est pas top, c'est plutôt
Ça publie des données sur Amazon.
Non, ça lit, ça consulte.
Ça consulte des données.
Ça propose des trucs qui viennent d'Amazon.
Qui viennent d'Amazon, et donc il y a un site internet qui a dit bah voilà, c'est pas bien parce que la vie privée, parce que tout ça, et donc qui a donné les lignes de commande à taper pour se débarrasser de ces fonctionnalités.
Voilà, le site s'appelle quelque chose comme Fix Ubuntu, donc réparer Ubuntu, sous-entendu que cette fonction est une fonction dysfonctionnelle, une sorte de panne, et donc la personne qui a monté ce site-là s'est vue mise en demeure par Ubuntu de fermer boutique. Puisqu'il utilisait le nom Ubuntu.
Et le logo qui devait être présent quelque part sur les pages. Et effectivement, d'après le droit des marques, la société détentrice a le droit de s'en garder l'usage. Sauf que c'était pas l'habitude de Canonical. Donc là, on voit l'article, mais on sait ça par ailleurs. C'était vraiment pas son habitude. Et effectivement, il semblerait que c'était un bug dans leur gestion de tout cela.
Voilà, c'est ce qu'a dit Mark Shuttleworth, le patron d'Ubuntu. Et qui a dit, ok, on l'a fait, mais c'était une erreur de notre part. Bon, en tout cas, voilà, cette affaire n'ira pas plus loin, puisque Canonical a fait marche arrière, tant mieux. Mais il y a eu d'autres histoires hein, sur ces questions de droit des marques, je crois que notamment Firefox avait fait ça à une époque.
Et il continue. Hein,
il continue, puisque le projet Debian, par exemple, a été obligé de le renommer en Iceweasel, parce que le logo et la marque Firefox est détenu par Mozilla.
Voilà, parce qu'ils font quelques modifications sur le logiciel, et Firefox refuse ces modifications. Et Iceweasel, on se doute, hein, c'est pas très amical comme nom, hein, c'est la fouine de glace, donc l'inverse du Firefox. Numérama, la TVA des e-books ajustée en fonction des DRM suggérés dans un amendement à un article de Julien L.
Alors c'est un sujet qu'on avait déjà vu, il y avait déjà eu des propositions. En gros, quand vous achetez un livre, si ce livre contient des DRM, donc des blocages, des menottes numériques,
électronique, oui.
Vous n'auriez pas le droit aux mêmes conditions sur la TVA.
Voilà. Alors l'idée est partie d'Isabelle Attard, qu'on connaît bien, dont on est très fan, puisqu'elle a posé des questions à l'Assemblée nationale à tous les ministères pour savoir combien ils dépensaient en informatique et en informatique libre, et sur une proposition de loi pour s'attaquer au fait que Amazon offre les frais de port. Elle a dit non, ce qu'il faut faire, c'est retirer la TVA à 5,5 sur les e-books avec des DRM, parce que ce ne sont pas des livres, ce sont juste des services de lecture. Elle avait lancé ça comme une sorte de d'idées, de provocations, de contre-arguments face à cette proposition-là. Et là, bonne surprise.
Et ce qu'elle dit, donc, c'est effectivement qu'on n'achète pas du tout la même chose entre des livres et des DRM, puisque les DRM enlèvent des droits à l'utilisateur. Cette idée, en fait, a été reprise par l'April et Calimac, qui est un juriste et bibliothécaire. Et ils veulent adapter les taux de TVA en fonction du livre. Et s'il contient des DRM, et ben, on est sur une TVA à 19,6. On fait partie de la catégorie de luxe. Et si on n'a pas de DRM, qu'on est complètement libre, on est à 5,5, donc avec les TVA réduites.
Mauvaise surprise, par contre, je crois que c'est paru aujourd'hui, l'amendement a été retiré, et c'est un petit peu dommage.
C'est même carrément dommage, parce que je trouvais que c'était vraiment une très très bonne chose d'enfoncer le clou là où ça fait mal, à dire, quand vous avez un truc avec des DRM, vous achetez moins que quand vous n'avez pas de DRM, vous êtes en train de vous faire retirer des droits, retirer des possibilités, et on est en train de vous refourguer quelque chose, on ne vous vend pas, on vous loue en quelque sorte.
Et quelque chose qui n'est pas un livre.
Qui en gros ouvrait la porte pour tous les autres types de formats et faire la différence entre ce qui était DRMisé ou pas. Et donc c'est dommage que cette occasion soit ratée. Bilan, les experts appellent les internautes à se révolter. Un article de Leila Huberschlag ou quelque chose comme ça.
Donc les spécialistes, surtout un spécialiste qui dès le début est présenté, Caspar Bauden, et qui vient parler en connaissance de cause.
Oui, alors c'est incroyable, c'est qui ce Caspar ?
Alors, Caspar, c'était un ancien de chez Microsoft qui travaillait sur tout ce qui concernait le respect de la vie privée et la sécurité des données des utilisateurs. Et il travaillait donc au sein de Microsoft et il se rend compte qu'il s'est fait...
De 2002 à 2011, c'est pas un passage éclair, voilà. Il est resté longtemps. Et donc, citation de Caspar, « Je n'avais pas connaissance du programme Prism quand je travaillais pour Microsoft. Je ne crois plus mon ancien employeur. » Donc au moins, ça le mérite d'être clair.
Et il en rajoute, puisqu'aujourd'hui, il n'utilise plus que du logiciel libre, donc on apprécie, c'est pour ça que l'article est là, faut pas rêver, et donc il déroule un petit peu tout ce qui s'est passé sur Prism, la NSA, Edward Snowden, on en a parlé, on en reparle même dans cette revue de presse, mais c'est quand même bien intéressant, et puis là ça donne des billes.
Voilà, donc il y a toujours le problème de NSA, Prism, avec pas mal d'entreprises américaines qui ont signé un espèce de pacte avec le gouvernement pour espionner tous les utilisateurs. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui réfléchit sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut améliorer Internet pour essayer de fermer ces brèches-là et redonner la liberté aux utilisateurs? Donc dans la suite de la revue de presse, on verra justement d'autres experts qui travaillent là-dessus. Et donc ils disent, faut se rebeller, faut se révolter. C'est absolument contre les libertés de l'homme et les libertés d'expression et autres. Et donc faut faire changer tout ça et vraiment se rebeller.
Ouais, on avait parlé la semaine dernière, et on voit que cette semaine ça continue, et donc il y a d'autres articles sur le sujet dans la revue de presse, on les verra tout à l'heure. En attendant, tout Linux, la bureautique libre peine à séduire les entreprises, un article de Philippe Scofoni.
Alors ce ne sont pas vraiment des bonnes nouvelles qui nous tombent dessus, c'est même un peu le contraire. Donc on va vous parler de bureautique libre, donc LibreOffice et Office.
Et OpenOffice.
Et OpenOffice, oui, effectivement, qui fait partie de la fournée. Voilà. Donc en gros, il y a des statistiques qui sont sorties sur leurs usages dans les entreprises et chez les particuliers, qui ne sont pas très encourageantes.
Ouais, voilà, donc ils ont interrogé 148 clients donc, en leur demandant quel outil de bureautique ils utilisaient ou ils comptaient utiliser. Donc malheureusement, Microsoft Office est toujours largement en tête dans les entreprises. Et en plus, point vraiment notable, il y a une forte diminution de la présence des logiciels libres. Donc en particulier LibreOffice et OpenOffice dans ces entreprises, donc qui est passé de 13% à 5% si je me trompe.
Voilà, bon, ça reste que 148 entreprises qui sont clientes de la boîte Café L'Étude, donc on peut pas dire que ce soit statistiquement représentatif, mais en tout cas, bon, c'est un signe pas tout à fait encourageant.
Ils mettent en avant une transformation des usages qui basculerait vers des suites qui sont sur Internet, Google Drive par exemple, et il faut savoir que bah, LibreOffice, ils sont en train de travailler là-dessus pour fournir du logiciel par le net pour faire des documents.
Alors, Attic rappelle que ça fait longtemps qu'ils annoncent ça et que ça a du mal à venir, mais en même temps, c'est vrai que c'est un saut fonctionnel assez important. Sled.fr, leur mission, réparer votre internet cassé par la surveillance, un article d'Anaël Guiton. Donc c'est effectivement la suite de ces sujets dont on en a parlé la semaine dernière, on avait notre article tout à l'heure avec notre ancien de Microsoft. Et là, ça fait un tour d'horizon des solutions et des projets en cours pour régler ces problèmes de surveillance.
Et de ce que je vois, en gros, c'est même le sujet du moment qui occupe tout le monde. Tout le monde est en train de réfléchir à comment solutionner ce problème. Parce que oui, c'est ce qui se passe souvent avec les geeks et les hackers. Eux, quand ils voient un souci, ils essayent de le contourner ou d'y répondre par des réponses techniques. Et de ce que j'ai compris, il y a même des gros organismes qui sont en train de bosser là-dessus.
Après la révolte, on va dire, il y en a qui cherchent aujourd'hui les plans d'action pour se sortir de là. Donc il y a des rassemblements un peu plus underground du type Home 2013, qui est un colloque de hackers qui s'est aux Pays-Bas, donc ils ont beaucoup discuté autour de Snowden, des lanceurs d'alerte, voir un peu tout ce qu'on était capable de faire. Il y a des choses beaucoup plus administratives et beaucoup plus en profondeur, donc qui est par l'IETF, le groupe de travail autour d'Internet, donc de toutes les technologies d'Internet, qui a tenu des réunions la semaine dernière, et le gros sujet de discussion a été comment protéger l'utilisateur par rapport à toutes les nouveautés comme Prism, et donc voir tous les mécanismes qu'on peut mettre en place, de la sécurité de bout en bout, tout chiffré dans tous les coins, et bah, pour protéger les utilisateurs.
Voilà, il y a une autre question, c'est aussi comment on fait pour que la masse, tout le monde puisse en profiter, avec cette idée que bah, des projets qui avancent à 90% et où reste 10% à faire, il y en a un paquet, mais que c'est les 10% qui restent qui sont en général compliqués à faire et qui vont faire la différence au niveau d'un usage du grand public, et que ça pose bah, la question notamment du financement de tout ça. Donc il y a beaucoup de choses dans cet article qui est assez long, assez complet. Ça parle également de Calliope qu'on avait cité la semaine dernière, hein, qui est quelque chose un projet qui se fait en France. Des citations de nos amis de la Quadrature également sur ces enjeux-là. Le Cercle et les Échos, open source, la guerre est finie, point d'interrogation. C'est une chronique de Patrice Bertrand qu'on retrouve très régulièrement dans la revue de presse.
Donc un article intéressant parce que justement, il présente la paix entre deux factions dont on discute pas mal, l'open source, donc le logiciel libre pour être plus générique, et le logiciel privateur, le logiciel propriétaire qui se tape dessus depuis des années et des années, parce que c'est logique, hein, ils sont très antagonistes même dans leur définition, et là ils présentent l'idée que cette guerre est terminée.
Voilà, une idée qui, de ce qu'il dit, est en train de circuler à droite à gauche, en disant, bon bah voilà, personne ne fait plus rien sans avoir au moins quelques briques en libre, Et c'est quand même très courant d'avoir des bouts de propriétaires, et ce monde-là, finalement, cohabite très bien, donc il n'y a plus matière à faire la guerre. C'est une idée qui circulerait, et Patrice Bertrand l'examine.
Donc effectivement, là, l'auteur regarde est-ce que la guerre est vraiment finie, et donc il en arrive à la conclusion qu'en fait, le privateur est en train d'essayer de prendre pour des cons le libre, puisque malgré qu'ils disent bon bah ok on va se servir du libre, derrière ils essayent de pousser des brevets logiciels
et
des DRM, et donc en fait ils disent d'un côté ce qu'ils font pas de l'autre. C'est un peu le privateur est un peu en train de faire l'escroc au milieu de tout ça.
Voilà, il dit qu'à l'inverse, justement ces questions de surveillance qui ont émergé avec Prism lancent un vrai défi pour le libre et montrent que le logiciel libre, avec cette idée de assurer la liberté de l'utilisateur et la maîtrise de son informatique, est plus crucial que jamais.
Alors moi, je rajouterais autre chose. Il y a un argument dont on a entendu parler déjà dans le passé, c'est qu'en gros, le libre a gagné. Les méthodes, les outils, les briques du libre, la preuve, elles sont reprises par le logiciel privateur qui en a besoin. C'est une base de départ et on ne peut pas tout reconstruire de zéro. Il faut se baser sur ce que les autres ont fait. Donc c'est une idée qui est intéressante. Malheureusement, c'est un peu démobilisateur. Donc il ne faut pas oublier, il y a plein de combats encore à faire. Le brevet logiciel, les DRM, ce n'en sont que deux parmi d'autres. Et il y a vraiment encore du travail, on est loin de la fin.
C'est là où on peut regretter que Patrice Bertrand utilise le terme d'open source, parce qu'à mon sens, oui, l'open source a gagné dans cette dynamique qui dit bah, on va partager le code juste pour coder mieux et moins cher.
Oui, sur le pragmatisme et la technique.
Hein. Mais voilà, le logiciel libre, c'est d'abord cette question de liberté et de contrôle, et là, on est très très loin du compte. Folha de S. Paulo, le Brésil ne veut plus de logiciels impossibles à auditer, un article de Natuza Neri et Julia Borba.
Alors un super article, hébergé et traduit par le Framablog, que je vous encourage à aller voir, parce que là c'est une grande nouvelle, c'est une bonne nouvelle, il y a un État, et pas un petit État, un État qui se défend et qui se rebelle et qui va un peu bouger les choses du point de vue de la surveillance.
Il demande à pouvoir mettre son nez dans le code source pour voir comment ça marche et est-ce que des fois il n'y aurait pas des systèmes pour les espionner.
Donc le code source de...
Bah, le code source de un peu tout ce qu'il va y avoir dans l'administration brésilienne. Donc c'est encore par rapport à l'histoire de Edward Snowden et Prism et autres. Aujourd'hui, le Brésil se rend compte qu'ils ne peuvent plus contrôler leur État, tout simplement. Ils ont tout mis entre les mains de sociétés étrangères et américaines en particulier. Et donc ils veulent pouvoir auditer tout ce qui va passer dans l'administration.
Microsoft s'est déjà déclaré en disant « Mais nous, il n'y a pas de problème. Un État peut venir regarder le code source, on va voir comment on se débrouille et qu'est-ce qu'on met en place pour faire ça. » Mais bon, techniquement, est-ce que ça garantit quoi que ce soit ?
Alors, à mon avis, ça garantit que oui, tu peux voir du code source, mais est-ce que tu vas voir toute la chaîne logicielle qui va de ce code source jusqu'à ce qu'il tourne sur tes ordinateurs ? On en doute, parce qu'après tout, Microsoft, ils ont bien plus que juste le code source de la fonctionnalité. Ils ont des compilateurs, ils ont plein d'autres infrastructures dans lesquelles ils peuvent introduire un peu tout ce qu'ils veulent. Et donc, cacher quelque chose, quand on pense à tous les docteurs en mathématiques qui sont à la NSA, ça paraît pas super compliqué quand on est à leur niveau de contrôle. Et puis surtout, ils évitent quelque chose. Tous les informaticiens qui peuvent auditer du code source libre, eh bien là, ils n'ont pas accès à ce code source privateur. Il y a juste une autorisation, un privilège qui est accordé à certains gouvernements s'ils le demandent, dans certaines conditions.
Et puis même s'ils avaient un partenariat avec Microsoft, on se doute bien que si le Brésil détectait quelque chose de à peu près anormal dans le code de Microsoft, ils n'auraient pas forcément le droit d'aller l'expliquer à tout le monde. Le code source ne suffit pas.
Lemonde.fr, la liberté logicielle s'use si on ne s'en sert pas. Un article de Laurent Séguin. Donc Laurent Séguin qui est de la FUL et qui là s'attaque à encore au monde de l'open source et avec toutes les licences un peu bâtardes, il y a toute une série de systèmes plus ou moins hybrides entre propriétaires et libres. Et là, lui, son argument, c'est de dire qu'à partir du moment où on commence à grenouiller dans ces systèmes bâtards, finalement, ça va contre le libre. Et notamment, il y a des systèmes de double licence ou de version libre, mais où il y a une version payante non libre qui est plus avancée, des choses comme ça.
Donc il va nous parler de contrats et autres blocages.
Oui, c'est un autre type de blocage qui consiste à donner du code qui est libre, mais à mettre des clauses contractuelles en disant voilà, je te donne un logiciel libre, mais par le contrat qui nous lie pour... l'exploitation et éventuellement la maintenance, etc. Je t'interdis de le modifier, etc. Donc même si le code est libre, on peut tout à fait rajouter des contrats par-dessus. C'est une autre façon de coincer et de pervertir les principes du logiciel.
Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
Voilà, bah merci tout le monde. Bonne semaine à vous.
À la semaine prochaine tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vino.
On remercie nos amis de l'April pour cette excellente revue de presse. Un petit peu de musique à présent avec un premier extrait de l'album Maktoub de Electro Tango aka Santiago Louvette avec ce titre qui n'a rien d'argentin quoique et qui s'appelle Paris.
Solo.
Paris, extrait de l'album Maktoub de Electro Tango, groupe emmené par l'artiste argentin Santiago Louvette, musique sous licence Creative Commons by SA 3.0. Le tour du logiciel libre a fait étape à Montpellier ce jeudi 14 novembre, l'occasion de rencontrer Pascal Fedel de l'Adulacte Coopérative, Julien Faury de l'Inagora et Jean-François Mangin, le DSI du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, qui a fait une migration de l'outil bureautique Microsoft vers la suite LibreOffice. Nous commençons donc avec Pascal Fedel. On parle de freins au développement d'une plateforme régionale ici en Languedoc-Roussillon ou d'exemples d'autres régions et divers projets. Pascal Fedel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous occupez de Adulacte Projet, ce qui est la forge informatique de l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les collectivités locales et territoriales. Pendant cette journée du Tour de France du logiciel libre à l'initiative de l'Inagora, dont Adulacte est un des partenaires, vous avez présenté un petit peu les produits de la coopérative. Donc, ce sont des logiciels métiers orientés vers les collectivités, donc des paraffeurs, des systèmes de gestion de toute la chaîne documentaire qu'il y a à l'intérieur des collectivités locales et territoriales. Vous avez cité e-Bourgogne, les Bretons, d'autres régions qui ont adopté, on va dire, de façon forte et pleine et entière les solutions libres à destination des collectivités. Qu'en est-il du Languedoc-Roussillon ?
Ça, s'appelle une question piège. Et bien justement, je suis en train de travailler au montage d'un dossier avec notamment le SGAR, SGAR régional, pour essayer d'initier une plateforme régionale languedocienne. Je ne vous cache pas que c'est extrêmement complexe, pas au niveau technique, mais au niveau politique. On connaît les antagonismes des uns et des autres. Et même si c'est un projet fédérateur, si ce projet échoue, ce sera au niveau politique, pas au niveau technique.
Au niveau politique, parce que les égos sont trop grands et les gens disent « Ah, si on le fait ensemble, ce ne sera pas mon nom qui aura en haut de l'affiche ?»
Pas seulement. Il y a des histoires de personnes, évidemment, et après d'intérêts. Un département n'a pas forcément les mêmes intérêts que la région. Donc, d'où la complexité. Et après, c'est vrai que des personnes ne s'entendent pas forcément et ne se mettent pas naturellement autour d'une table, même si le projet il est mutualisant et il sert à une majorité de collectivités, mais c'est toujours complexe.
Donc il y a une peur dans les collectivités finalement que l'autre collectivité connaisse sa cuisine interne. Pourtant, on peut utiliser les mêmes outils sans pourtant partager le contenu qu'on traite avec ces outils.
Ah oui, il y a une étanchéité totale de par les systèmes d'information sécurisés. Mais je crois que c'est plutôt une question de financement et après de retour d'image. C'est-à-dire que si on met la région, les 4 départements ou les 5 départements autour de la table, qui va financer, à quelle hauteur et quel retour d'image pour chacun? Et c'est là où on n'a pas la bonne clé ou les bonnes clés.
Le retour d'image pour des outils tellement pointus, tellement précis, tellement métiers, ça consiste en quoi ?
Non, le retour d'image, je parle maintenant pour la région et leurs dirigeants élus. C'est ça le retour d'image. Après, la technique, c'est plus un problème. Ces plateformes-là fonctionnent, on l'a démontré dans plusieurs endroits, donc c'est plus le souci.
Il y a de l'espoir quand même ?
Un espoir limité. Mais on y travaille et le temps presse. Puisqu'il y a une réforme importante dont j'ai parlé ce matin, la réforme de la transmission des bordereaux de paiement et de dépenses au Trésor. Et cette réforme se met en place le 1er janvier 2015. Donc là, si on veut faire quelque chose pour les collectivités languedociennes, donc ce qui représente tout globalement 1400 collectivités, faire en sorte que la plateforme soit opérationnelle au mois de juin 2014, c'est la bonne échéance. Si on vient après, on a perdu l'essentiel de la bataille.
Donc ça veut dire qu'il y a des régions où politiquement on a eu une illumination ou en tout cas l'éclairage de gens compétents qui ont fait comprendre aux politiques c'est vers cela qu'il faut aller. Puis il y a d'autres régions où le politique n'est pas tellement convaincu et du coup où c'est ça le problème majeur.
En partie. Si on prend les exemples de Bourgogne et de Bretagne, rappelons l'historique, la plateforme Bourgogne a été initiée par l'État elle-même. À l'époque, l'ADE a dit « mutualisons à l'échelle régionale ce qui est la bonne échelle ». Donc l'État s'est mouillé, a mis autour de la table donc, la région, les départements. Venant de l'État, c'est plus simple. Et donc le projet a abouti, ça fonctionne très bien et tout le monde est satisfait. Au niveau Mégalis, c'est la région Bretagne qui a initié l'ensemble du projet, a monté un syndicat mixte et a mis autour de la table les 4 départements. Mais il se trouve que les bords politiques étaient les mêmes. ça aide. Et donc ça aboutit là aussi à un projet qui fonctionne très bien et qui satisfait les usagers.
Mais à ce que j'ai cru comprendre, inéluctablement, les gens vont devoir se poser les bonnes questions et évidemment trouver les bonnes réponses. Donc finalement, si, c'est reculer pour mieux sauter, si, pour ceux qui reculent encore.
Oui, je pense que c'est une erreur de ne pas aller vers ce genre de plateforme. Et après, je pense qu'il y aura des regrets si cette plateforme ne se monte pas. Et d'ailleurs, c'est même étonnant que ce soit l'initiative d'une association et d'une coopérative languedocienne et pas de la région. C'est peut-être un premier regret.
Sinon, pour terminer au niveau des projets, le dernier outil sur lequel vous travaillez en ce moment, c'est un porte-document orienté vers les élus qui leur permettrait du début du processus jusqu'au vote en séance, finalement d'avoir un outil qui gère tout ça.
C'est exactement ça. Et donc le but avoué est extrêmement simple, c'est rationaliser et économiser. Puisque ce sont des tâches qui ne sont pas très valorisantes. Faire des photocopies, mettre sous pli, mettre des timbres, ça représente zéro valeur ajoutée, alors que faire ça de manière électronique, c'est efficace. On trace les processus, et puis donc les gens sont amenés à faire autre chose de bien plus riche.
Des outils qui sont accessibles via plusieurs formats, c'est-à-dire ceux qui ont encore des ordis portables ou ceux qui ont des tablettes. La question de la tablette posant la question du logiciel libre en quelque sorte, puisqu'on sait que les plus répandus, c'est Android ou Apple. Donc ça pose la question d'être complètement compatible, y compris avec des solutions qui ne sont plus tout à fait ouvertes. Là, je pense à Apple en particulier.
Oui, mais la solution, on l'a conçue avec des technologies totalement ouvertes. On travaille avec du HTML5, donc ça veut dire que les élus qui ont encore des portables avec un navigateur, ça a fonctionné. Et ceux qui ont des tablettes Android et iPad, ça a fonctionné aussi. On a même été jusqu'à le faire fonctionner sur une tablette Surface, donc de nos amis Microsoft. Donc on essaie d'élargir le débat et donc d'avoir une forme d'œcuménisme informatique.
Nous ne pouvons que vous en féliciter. Merci beaucoup Pascal Fedel.
Merci à vous.
Pascal Fedel, responsable de la coopérative de l'Adulacte, qui est la forge logicielle de l'association des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. Julien Faury est lui responsable des régions pour le sud de la France chez l'Inagora. Julien Faury, bonjour.
Bonjour.
Alors chez l'Inagora, vous êtes le monsieur sud de la France. Ça, c'est quand même plutôt cool.
Ah oui, tout à fait. J'ai la chance d'être à la fois dans une société qui est libre et de travailler là où il fait beau. Donc pour moi, tout va bien.
Alors plus sérieusement, vous avez présenté un petit peu l'Inagora, éditeur de logiciels, hébergeur qui propose des tas de services, de la formation, etc. On a bien compris que le contexte de la circulaire Hero, qui à défaut d'être une directive était au moins une circulaire, a quand même fait avancer les choses. On a évoqué la mise au catalogue de l'UGAP des prestations et des produits de l'Inagora, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps pour les collectivités désireuses de passer par là plutôt que de faire un appel d'offres, etc. Aujourd'hui, les projets, c'est de développer votre offre logicielle, notamment autour des futures solutions OpenPass ou G-Safe, puisque vous travaillez aussi avec des ministères pour lesquels la sécurité est très importante, je pense à la défense notamment. Donc finalement, le libre, on peut considérer aujourd'hui qu'il a le vent en poupe, même si tous les jours on constate des petits freins ou des choses qui vont pas encore aussi vite qu'on voudrait qu'elles aillent.
Alors tout à fait, nous aujourd'hui on fait partie des acteurs historiques de ce marché, hein, puisque l'Inagora a été fondée en 2000, donc 13 ans d'histoire sur ce marché-là. Je dirais que notre développement il va se faire sur trois axes. Vous avez parlé du métier d'éditeur de logiciels, c'est effectivement celui sur lequel nous investissons le plus aujourd'hui. On a une gamme avec 4 logiciels, avec en fer de lance OBM, hein, une suite de messagerie collaborative utilisée par la plupart des ministères aujourd'hui au niveau national et par un grand nombre de collectivités et d'entreprises du monde privé. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est réellement l'axe déploiement international, puisqu'on a ouvert au Canada en fait une antenne au mois de septembre qui se développe déjà assez activement. Et notre PDG Alexandre, qui était sur votre radio récemment, se fait fort de lancer ça très activement sur la première année. Et puis le troisième axe, c'est vraiment le déploiement au niveau national du logiciel libre, comme on le fait depuis 12 ans, hein, continuer à être les évangélisateurs de ce marché-là. C'est vrai que l'UGAP et ce référencement-là nous aident énormément auprès des collectivités locales et territoriales. Et puis, quoi que vous en disiez, nous, on sent vraiment l'émergence et l'effervescence de ça. La circulaire Hero a aidé. On va encore en voir pas mal de conséquences au niveau ministériel dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, ça retombe aussi dans les différentes entités qui ont des relations avec l'État, les conseils régionaux, les organismes de sécurité sociale et les choses comme ça. Donc pour nous, le moment, il est vraiment très dynamique. Et puis, vous le savez, hein, c'est un monde de passionnés. Il y a beaucoup de passionnés, donc ça avance. Pour nous, ça avance plutôt vite, donc on est très contents.
Oui, c'est vrai que les choses avancent, même si on a pu assister cette année à des espèces de valses-hésitations, j'avance, je recule, que ce soit pour la loi de modernisation de l'école où on a plutôt reculé, ou sur les universités et la recherche où on a plutôt avancé, que ce soit avec la gendarmerie où on avance, bon, j'ai envie de dire carrément, puisque la présentation qui a été faite à Lisbonne en septembre de la personne en charge auprès de la gendarmerie était quand même assez édifiante, mais pourtant dans ce même ministère on recule un petit peu avec la proposition Open Bar de Microsoft, donc on est vraiment en ce moment, on a l'impression d'un moment charnière où ceux qui se battent pour rester dans les anciens modèles se battent plus fort que jamais. Et puis, ceux qui suivent l'élan naturel du progrès ont encore besoin de faire beaucoup de pédagogie auprès des gens pour leur faire comprendre.
Oui, alors là, on touche quand même à des sujets très politiques, donc sur lesquels il faut à la fois être prudent et puis bien maîtriser tous les enjeux, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais je dirais que la circulaire Héro est quand même une circulaire qui a été émise par le Premier ministre. C'est pas anonyme, c'est pas une circulaire qui n'aurait pas de sens. Elle a été préparée par la mandature précédente aussi. C'est un groupe de travail interministériel qui l'a préparée. C'est pas un DSI d'un ministère qui l'a imposée. Donc voilà, il y a des ministères qui font leur choix en respectant cette circulaire très efficacement, d'autres peut-être qui hésitent encore un peu, mais elle est quand même assez directive, donc je pense que ça va vraiment dans le bon sens, et les petites hésitations politiques qu'on peut voir ou qu'on peut croiser de ci, de là, pour moi, font partie de l'histoire et feront partie de l'histoire très bientôt.
Ainsi que la propriété intellectuelle, terme que vous avez utilisé dans cette présentation. Alors évidemment, vous êtes forcément confronté à ces questions de propriété intellectuelle parce que j'imagine qu'il y a des collectivités qui ont déposé un truc sur leur logo ou que sais-je, ou cette question-là se pose, même si, selon Richard Stallman ou Albert Jacquard qui nous a quittés, c'est un non-sens sémantique que ce terme de propriété intellectuelle, malgré tout, vous-même, j'imagine que l'Inagora, vous êtes obligé tout le temps de discuter avec des gens pour qui ça a encore du sens, sans pour autant devenir schizophrène.
Alors c'est un sujet qui nous fait passer beaucoup de réunions assez rigolotes. Non, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui se doit d'être quand même respecté. Quand quelqu'un fabrique quelque chose, même s'il le met à disposition d'autrui, les licences libres protègent cette propriété, en tout cas. Pour autant, ça ne veut pas dire que derrière, il y ait un brevet et une possibilité de non-utilisation. Donc nous, on est fervents, et je l'ai dit à plusieurs reprises, défenseurs du logiciel libre de droit, libre d'usage, libre de modification et libre de commercialisation. Et gratuit associé à ça. Donc ça, c'est vraiment nos convictions. Donc on travaille énormément là-dessus. Et on accompagne beaucoup de clients dans leur démarche, notamment quand ils veulent eux-mêmes publier un logiciel libre, les aider à bien choisir le format de licence qu'ils doivent utiliser. Donc c'est des sujets qu'on maîtrise bien, la propriété intellectuelle. Pour autant, il ne faut pas faire de polémique au-delà de ce qui est raisonnable. Quand une personne fait un travail dans le cadre de son monde privé, c'est normal que ça lui appartienne en partie. Après, quand c'est dans son entreprise, ça appartient à son entreprise. On est dans des choses qui sont assez simples, finalement.
Alors, à ce titre, parmi les services que vous offrez, que vous proposez, vous avez une transparence assez totale quant au reversement du code à la communauté. Et ça, c'est un truc sur lequel vous êtes à cheval.
On est très à cheval, on a même été précurseur dessus, hein, puisque c'est depuis l'histoire de l'Inagora que ça a toujours été comme ça. Nous, dans nos contrats standards, le reversement est inscrit. Il arrive que
Il est même documenté, il y a même un report qui est fait sur ce reversement.
Ah oui, tout à fait. En fait, on inscrit, quand on fait un contrat avec un client, la volonté de l'Inagora de reverser ce qu'on aura produit pour ce client à la communauté. Pour peu, bien sûr, que ça ait du sens. Pour peu, bien sûr, qu'on ne touche pas à du confidentiel défense ou à un métier vraiment très spécifique qui n'intéresserait personne. Donc c'est vraiment dans notre ADN et dans notre état d'esprit de travailler comme ça, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que grandissent les logiciels qu'on utilise. Et on pourrait citer des tas d'exemples aujourd'hui, hein, de GLPI, au logiciel de la Dulacte ou autre, qui sont nés comme ça parce que des gens ont accepté de payer en partie du code qui ensuite a été libéré en open source. Donc oui, on est très fervent de ce reversement aux communautés. Ouais.
Pour terminer, sur la dimension internationale, le contexte favorable qu'on connaît en France et plus généralement en Europe où le brevet logiciel n'a pas cours, rappelons-le, quoi qu'en dise l'Office européen des brevets qui ne répond qu'à lui-même et qui ne se justifie que par lui-même, est-ce que ça peut présumé d'un fort développement de Nilagora international dans les pays francophones et même au-delà.
Écoutez, si on prend ne serait-ce que l'exemple du Canada et du Québec qui viennent de se doter côté Québec d'un monsieur open source qui en fait nous ouvre aujourd'hui grand les portes pour nous déployer là-bas, je crois effectivement que ça augure d'un développement assez important dans les prochaines années. Maintenant, on sait tous que le premier marché de l'open source, c'est le marché américain, qui n'est pas exactement basé sur les modèles libres et gratuits dont on vient de parler. Donc ça fait partie des pistes de réflexion pour l'Inagora que je ne révélerai pas aujourd'hui parce que même moi, j'en fais pas forcément partie. Mais voilà, oui, ça augure d'un bon développement, d'autant qu'il y a une prise de conscience, on le voit déjà dans le monde francophone et aussi ailleurs, que c'est vraiment intéressant d'utiliser ces logiciels libres dans les collectivités.
Julien Faury, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Julien Faury, responsable des régions pour le sud de la France chez l'Inagora, rencontré donc lors de ce tour du logiciel libre qui faisait étape à Montpellier ce jeudi 14 novembre. Un petit peu de musique avec un deuxième extrait de l'album Maktoub de Electro Tango, et c'est Luna por Calo que nous écoutons à présent. Une musique sous licence Creative Commons by SA 3.0. Luna Porcalo, extrait de l'album Maktoub de l'artiste Santiago Louvette, un artiste argentin. Toujours dans le cadre de ce tour du logiciel libre qui faisait étape à Montpellier ce jeudi 14 novembre, c'est le directeur de la direction des systèmes d'information du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, Jean-François Mangin, qui répond à nos questions.
Jean-François Mangin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le DSI du Conseil régional du Languedoc-Roussillon. Vous avez ce matin exposé bien l'histoire de la migration de la suite bureautique de Microsoft vers LibreOffice. Alors, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que, contrairement à d'autres régions ou à l'équivalent d'autres régions, c'est une initiative qui est partie de la DSI plus que du cabinet présidentiel.
Oui, après, les objectifs étaient quand même partagés. Tout cela avait un sens au niveau de la collectivité, mais également au niveau budgétaire, pour éviter d'avoir à dépendre de politiques tarifaires de gros éditeurs qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent nous limiter le budget, ou en tout cas contraindre le budget. C'est des lignes qui ne sont pas maîtrisables. Et le meilleur moyen de les maîtriser est de passer dans le monde du libre et de profiter de ses atouts.
Alors une migration, c'est toujours un choix économique aussi, puis un choix technologique, puis un choix de souveraineté, puisqu'on l'a bien vu suite aux récentes révélations ou non-révélations, puisque beaucoup de gens le savaient déjà, des histoires de prismes et de backdoor, c'est-à-dire de portes dérobées dans les logiciels pour informer la NSA de qu'est-ce qu'on fait, comment et quand et avec qui. Donc il y a tout un faisceau, on va dire, de facteurs qui font que, bon an mal an, les collectivités passent petit à petit vers des solutions libres, a fortiori parce que les solutions serveurs dans les collectivités sont déjà sous logiciel libre depuis bien longtemps.
Oui, on a déjà toute une infrastructure qui est largement, qui exploite largement des technologies du libre. Maintenant, c'est vrai que on sait très bien que certains éditeurs sont de mèche avec la NSA notamment. On ne maîtrise absolument pas ce qu'ils font. Dans le domaine du libre, tout est nettement plus clair et on peut être beaucoup plus rassuré sur ces sujets. Maintenant, notre choix de migration avait été fait bien avant que ce sujet rentre dans l'actualité. Maintenant, ça permet de conforter notre choix, et au moins on sait qu'avec notre choix, on n'a sans doute pas ce que vous appelez les backdoors ou quoi que ce soit, qui vont permettre d'exploiter, de faire de plus ou moins de l'espionnage industriel ou de l'écoute sur des documents produits ou quoi que ce soit. En tout cas, on maîtrise le logiciel, et même si on n'en était pas satisfait, on pourrait le modifier. Avec Microsoft, il est clair que ça serait carrément impossible.
Alors, sauf avec le système d'exploitation, puisque pour l'instant, à part dans la théorie, on n'envisage pas de migrer les postes sous Linux au niveau du système d'exploitation, chose que fait la gendarmerie, mais manifestement, c'est plus facile au sein d'un corps de l'armée de prendre des décisions, on va dire, importantes et universelles que dans une collectivité territoriale.
Oui, bon, c'est vrai qu'au niveau de la gendarmerie, il y a sans doute un aspect hiérarchique qui permet vraiment d'appliquer certaines évolutions. Bon, maintenant, faire toutes les évolutions en même temps, ce n'est pas forcément une bonne chose. Là, déjà, on s'est engagé initialement sur une migration de toute l'infrastructure dans les technos du libre, et ça fonctionne vraiment très bien. On est en cours de migration de notre suite bureautique, ce qui est déjà un projet assez ambitieux. On ne peut pas tout mener de front. Je ne dis pas qu'on n'ira pas, bien sûr, vers un système d'exploitation des postes de travail dans le domaine du libre. Maintenant, je crois qu'il faut, il faut que ce soit le bon moment. Et aujourd'hui, le bon moment ne s'est pas encore présenté. Par contre, le jour où on aura à envisager des migrations sous typiquement Windows 8, qui va nécessiter d'énormes changements ergonomiques, là, ça sera le bon moment pour se dire, est-ce qu'on investit sur la conduite du changement vers Windows 8 ou vers le monde du libre? Et là, ça sera l'excellent moment pour se poser la question. Et par contre, moi, la chose que je déplore dans le domaine des systèmes d'exploitation, c'est qu'il y a eu la mauvaise expérience de Vista, qui a plombé quand même Microsoft pendant des années, et le monde du libre n'a pas été suffisamment lucide pour nous sortir un bon système d'exploitation, ce qui aurait pu couper l'herbe sous le pied de Microsoft. Or, pendant toutes ces années de Vista, Vista ne s'est pas vendu. Le libre, je ne dis pas n'a rien fait, mais n'a quand même pas mené des actions importantes en la matière. Et finalement, Windows 7 est arrivé et ça a satisfait tout le monde. Donc c'est dommage que le libre n'ait pas profité de cet échec de Vista pour pour se positionner. Ça aurait pu être vraiment un bon argument. Maintenant, gageons que ce soit peut-être la mauvaise expérience de Windows 8 qui profite au monde du libre. C'est ce que j'espère et on peut attendre ces prochaines années pour le vérifier.
Le fait que l'Assemblée nationale ait été équipée sous Ubuntu dans ces années-là est peut-être pas étranger au flop vistien, mais on va pas digresser là-dessus. Aujourd'hui, c'est 1000 postes qui ont été équipés de la suite LibreOffice au niveau de l'outil bureautique. 576 personnes formées. La formation qui a été un chapitre sur lequel vous êtes revenu plusieurs fois en déplorant le manque de budget. Alors, il faut préciser qu'on s'était fait l'écho dans Divergence numérique de la migration du CHU de Tourcoing qui, sur un prévisionnel de dépenses qui incluait les licences, etc., pouvait réaliser une économie d'échelle très importante qui permettait d'une part de changer les machines, ce qui n'était pas possible dans le premier projet, mais d'autre part de monter un centre de formation. Et on sait très bien que dans tous les cas de migration, la formation, c'est le maître mot, parce que faire changer les habitudes des gens, c'est leur donner les clés des nouveaux outils auxquels il faut qu'ils s'habituent. Et l'habitude des gens, c'est quelque chose contre lequel vous butez tous les jours.
C'est vrai qu'on avait identifié que la conduite du changement était fondamentale parce que les gens utilisent au quotidien la bureautique, donc il faut qu'ils puissent utiliser cet outil à sa pleine valeur. Donc c'est vrai qu'on a été au début limité au niveau budgétaire, ce qui a permis de proposer à tout le monde une journée de formation. Maintenant, on espère pouvoir les compléter dans les années qui viennent par des modules particuliers en fonction de l'attente des gens qui doivent utiliser tel ou tel module plus particulièrement. Maintenant, il est clair que mieux on est formé, mieux on sait utiliser. Maintenant, on a fait avec les ressources qui étaient disponibles pour que cette migration se fasse dans les conditions qui étaient les meilleures par rapport, je répète, aux ressources que l'on avait à notre disposition.
Alors, de la formation, encore souhaitons-vous beaucoup de formation. Quelques dérogations quand même pour laisser quelques postes sous la suite bureautique de Microsoft pour les questions pratiques et d'impératifs de production, on va dire. Et puis beaucoup de travail sur les modèles de documents, parce qu'on sait que la bureautique, c'est de la mise en page souvent, et souvent les données qui sont un petit peu perdues ou modifiées quand on passe d'un outil à un autre, voire même quand on passe du même outil selon les différentes versions, c'est souvent des petits bugs de mise en page, etc. Et ça a nécessité beaucoup de travail.
Beaucoup de travail, et surtout le but c'était de capitaliser sur les atouts de LibreOffice. Notamment, LibreOffice utilise vraiment les styles, les modèles. Fonctionnalité aussi proposée par Word, mais qui est moins nécessaire sur Word. Donc l'objectif c'était de faire passer le message, d'exploiter pleinement les styles et les modèles. Ça permet deux atouts. Le premier, c'est de ne pas se poser de questions sur la mise en forme, parce que certains pourraient se dire, tiens, j'aime bien quand c'est écrit de telle ou telle manière, mais le but, là, on n'est pas chez soi, on est dans une organisation avec une charte, etc. Donc le principe, c'était d'harmoniser tout ça et de dire aux gens, en gros, ne vous occupez pas de la charte, elle est déjà définie, utilisez les modèles tels qu'ils sont. Et LibreOffice, c'est un des atouts de LibreOffice que de pouvoir vraiment capitaliser là-dessus.
C'est-à-dire que les gens qui ont été formés sur LibreOffice, finalement, ont appris à se servir de choses dont ils ne se servaient pas sous la suite de Redmond.
Le but, c'était en effet d'utiliser toutes les ressources de cette suite bureautique. C'est vrai qu'il y a certains éléments qui sont plus performants sur LibreOffice que sur la version de Microsoft que l'on avait dans notre collectivité. Donc l'objectif, c'est de l'utiliser pleinement. Maintenant, on sait tous que chacun utilise une infime partie des fonctionnalités. Maintenant, encore faut-il définir, ça ne va pas être les mêmes fonctionnalités utilisateur par utilisateur, donc il faut arriver à identifier quelles sont vraiment les utilisations qu'ils font. Voilà, certains vont faire des usages très approfondis du publipostage, de l'usage de modèles, d'autres vont seulement taper des paragraphes, et donc c'est la difficulté d'arriver à distinguer les usages pour que les formations ou l'assistance soient en adéquation avec l'usage qui en est fait.
Alors la prochaine étape, ce serait éventuellement de faire comme les gendarmes, c'est-à-dire de migrer les postes sous le système d'exploitation. Là aussi, il y a un facteur qui pourrait ne rien avoir à voir, c'est l'expiration du support d'XP. Vous allez quand même continuer à garder les machines sous XP après expiration du support de Microsoft. Mais ça va être un autre levier pour que finalement le politique dise « Ah bah oui, il faudrait aller jusqu'au bout de la démarche et changer de système d'exploitation. »
Nous, notre politique, c'est vraiment d'essayer de capitaliser sur les outils ou sur le matériel le plus longtemps possible, presque indépendamment des appels d'air que peuvent faire les éditeurs qui ont envie qu'on change en permanence. On estime qu'on a certains postes de travail anciens qui sont encore sous XP. On ne les migrera pas dans une nouvelle version de système d'exploitation. On va les conserver jusqu'à leur mort. Pour vraiment mieux capitaliser sur les investissements d'hier, on nous demande, nous, d'investir et de capitaliser sur ce que l'on met en œuvre. On souhaite les utiliser plus longtemps que ce que préconise Microsoft. Et donc, en effet, on utilisera pendant au moins quelques mois en plus le système d'exploitation Windows XP après la fin de sa maintenance. Mmh. On ne peut pas se laisser imposer par un éditeur, quel qu'il soit, notamment Microsoft en l'occurrence, de changer nos postes tous les temps de temps. Ce n'est pas possible. On a des budgets qu'on doit consacrer à des politiques publiques. On ne va pas les consacrer au système d'information uniquement en fonction des desiderata de Microsoft. Mmh,
mmh. Alors, on a appris ce matin aussi que les préfectures doivent assurer la migration sous LibreOffice avant la fin de l'année prochaine. Ça aussi, comme vous le disiez pendant votre communication, c'est le nombre aussi qui peut faire pencher la balance. Plus de gens se mettront à utiliser les formats ouverts de LibreOffice ou des formats ouverts en général, plus rapidement les éditeurs qui ne s'en souciaient pas jusqu'à présent se diront « Ah, il faut qu'on soit compatible, etc. » Donc là, il y a encore du travail, un travail qui dans d'autres régions est allé un petit peu plus vite. Alors on pense à la Bourgogne qui sur l'influence de l'État qui avait organisé la confrontation ou la réunion des collectivités, ça a pu avancer assez vite pour que les collectivités territoriales ici en Languedoc-Roussillon marchent la main dans la main sur ces thématiques. Est-ce qu'il faudrait un médiateur?
Un médiateur, peut-être pas, en tous les cas un animateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous beaucoup de boulot dans notre structure et on a sans doute du mal à collaborer ensemble. S'il y avait un animateur, comme peuvent le faire certaines associations, du type Adulacte ou d'autres, l'objectif c'est de permettre de nous mettre en relation, d'échanger, de mutualiser. Et quelque part, les DSI ne gagneront que si elles mutualisent leurs ressources, leur expérience, leur production. Et moi, c'est vrai que la migration de LibreOffice, on l'a menée, je ne dis pas seul, mais on n'avait pas vraiment d'expérience d'autres collectivités en la matière. Ce que je voudrais, moi, c'est faire part de mon expérience et profiter également de l'expérience des autres. D'autres grandes collectivités, entre-temps, ont migré, ont utilisé certaines fonctionnalités dont je n'avais pas connaissance, sur lesquelles on n'a pas capitalisé. Très clairement, ce genre de migration marchera bien si on travaille main dans la main, si on mutualise et qu'il y a donc des animateurs qui nous aident à nous mettre en relation. Et c'est ça le gage de succès. Et si en plus les préfectures sont obligées d'y aller, ça fera un mouvement de fond. Et c'est que par un mouvement de fond que petit à petit, les suites bureautiques libres seront peut-être, la suite par défaut. Et ceux qui le veulent continueront chez Microsoft. Aujourd'hui, c'est plutôt tout le monde est chez Microsoft, sauf quelques exceptions dans le domaine du libre. Le but, c'est d'inverser cette tendance.
Donc la devise framasoftienne convient tout à fait. La route est longue, mais la voie est libre.
Tout à fait. On y va, à fond.
Jean-François Mangin, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Merci beaucoup.
Jean-François Mangin, DSI au Conseil Régional Languedoc-Roussillon, rencontré donc lors de ce tour du logiciel libre qui faisait étape à Montpellier ce jeudi 14 novembre 2013 dans les locaux de la Maison du Numérique chez l'association Novae. LR. On va se quitter en musique toujours avec un extrait de l'album Maktoub de Electro Tango. C'est Electro Oblivion avec lequel nous allons nous quitter. Sans oublier de vous rappeler que c'est sur montpel-libre.org que vous pouvez retrouver tous les rendez-vous que vous donne l'association des libristes montpelliérains autour des cartoparties, des divers ateliers et install-parties. Agendadulibre.org pour l'hexagone.be.ch.qc.ca pour les autres pays francophones recensés dans cet agenda. On vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas de rester libre.